Premièrement, je dirais qu'elle ne se différencie pas de la psychologie générale, mais qu'elle est une branche. Si on dit psychologie du développement, c'est nécessairement une branche de la psychologie générale, puisque c'est elle, celle qui vise à expliquer les conduites de l'adulte, les comportements de l'adulte, et voire les pensées, enfin ce qui se passe dans le cerveau de l'adulte, par la genèse. Donc c'est pourquoi on l'a appelée d'ailleurs psychologie génétique, en donnant à ce mot non pas le terme ce qui est issu des gènes, mais ce qui forme une genèse, c'est-à-dire ce qui forme une construction dans le temps, et une construction orientée. Alors Claparède disait par exemple que ce qui caractérisait l'enfant, ce n'était pas ce qu'il soit petit, c'est qu'il aspirait à devenir grand. Ça, c'était une jolie définition, justement, qui tenait compte du développement. Alors, si on veut regarder, si on revient aux origines, bon, il y a des origines très lointaines. Mais si on veut penser en termes de filiation plus ou moins directe, alors c'est le 19e siècle. C'est le 19e siècle qui commence avec des études qui, au départ, n'ont pas pour but de donner une explication génétique, de dire voilà ce que c'est que le développement de l'enfant, mais de montrer qu'il y a des changements qui se produisent dans la vie et qui sont constitutifs de ce que sera la vie adulte. Et ça commence avec Jean Itard, qui recueille Victor, le sauvage de l'Aveyron, et un enfant donc qui a vécu à l'état sauvage, pendant combien de temps, on n'en sait rien, qui marche à quatre pattes, il galope, et qui ne s'exprime pas par un langage articulé, qui lappe comme les animaux, et qui, semble-t-il, ressemble plus à un animal qu'à un enfant. Et quand Itard le prend en main, il va essayer justement de transformer cette espèce d'être hybride, qui n'est ni un vrai animal, ni un vrai être humain, en un être humain parlant, marchant sur ses deux pieds, pouvant s'exprimer, et donc pouvant, en fait, si vous voulez, être indiscernable d'autres humains. Alors, c'est pas tout à fait réussi, on le sait, mais c'est déjà quelque chose qui donne à penser sur ce que peut être un enfant et ce que peut être un développement. Ça, c'est le premier point. Curieusement, les travaux d'Itard ne donneront pas lieu à une descendance, il n'y aura pas de descendance de Jean Itard proprement dite, mais un certain nombre de travaux de Itard seront repris par Seguin vers la fin du 19e siècle, quand il s'intéresse à ce qu'on appelle les idiots au Kremlin-Bicêtre, au Kremlin. Alors ça, c'est donc une voie, on dira, mais alors ça mène vers de la psychopathologie. Non, pas du tout. Ça mène vers l'idée qu'il y a des êtres normaux et il y a des êtres à qui il manque quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces êtres récupèrent, si c'est possible, ou se rapprochent d'une normalité? Il faut tenir ça présent à l'esprit parce que ça inspirera en particulier la psychométrie, pour une bonne partie. Alors ça, c'est une des lignes. Et puis, il y a les médecins hospitaliers. Les médecins hospitaliers, il y a des gens comme Gudin, dont Laurence, vous avez dû pouvoir voir les traces à Baudeloc. Il y a Gudin qui fait une étude des bébés et qui s'intéresse aux fonctions, c'est-à-dire pas seulement à la respiration, pas seulement à l'alimentation, mais qui regarde un petit peu qu'est-ce que c'est un bébé, qu'est-ce que ça fait. Et c'est intéressant parce que c'est l'époque où, en même temps, à l'étranger, et sous des influences qu'on va voir diverses, se publie ce qu'on appelle des journaux d'enfants. Alors, c'est pas un terme très bien choisi, parce qu'en fait, c'est pas les enfants qui écrivent des journaux, c'est les parents qui écrivent jour par jour ce qui arrive à leur rejeton. Alors, il y a d'abord Darwin, le premier, qui écrit sur son fils, et ce qui intéresse Darwin, c'est justement un petit peu comme l'avait vu Itard, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui rapproche les conduites de l'enfant des conduites animales, et qu'est-ce qui les en différencie. Et puis, il y a à la même époque Preyer, qui écrit un livre qui s'appelle « De l'âme de l'enfant » en allemand, et qui en fait traite pas tellement de l'âme, mais qui traite des conduites. Et Preyer commence, lui, à avoir une méthode, c'est-à-dire qu'il va étudier jour après jour son propre enfant, dans des situations de la vie quotidienne qui sont répétitives. La toilette, le repas, le coucher, etc. Donc là, ça va lui donner une base pour voir où sont les progrès, où sont les changements. Alors, à leur suite, il y en aura beaucoup. Il y aura les Buller, enfin, il y aura beaucoup de gens. Binet, avec ses filles, qui écrira sinon un journal, du moins qui tiendra compte de ce que font ses filles, Armande et Marguerite. Alors, Donc tout ça, ça forme un intérêt vis-à-vis des enfants. Et cet intérêt tient compte de ce qu'avait raconté Rousseau au XVIIIe siècle, à savoir que l'enfant n'est pas une miniature d'adulte, il est autre chose. Alors qu'est-ce qu'il est? Ça c'est autre chose, il va falloir le définir. Mais en attendant, c'est il y a un intérêt pour l'enfant. Au début du XXe siècle, il y a donc des chercheurs qui se mettent à étudier l'enfant. Il y a aux États-Unis, en particulier, deux personnes qui sont Gesell et Baldwin. Il y en aura d'autres, hein. Il y aura les Carmichael, il y aura toute une pléiade de gens, mais au départ, il y a des gens qui s'intéressent à l'enfant et qui se disent on doit pouvoir montrer ce qu'il est en faisant des choses avec lui ou en lui essayant de lui faire faire des choses, en voyant ce qu'il fait. Donc c'est l'action, comment il se conduit dans des situations, comment il va par exemple prendre un biberon, regarder sa mère, n'importe quoi, mais tout. Bon. Et Gesell va prôner à partir de là une sorte d'observation, de méthode d'observation naturaliste. Et il y a encore à Yale entassé une quantité de films faits par Gesell qui sont des mines de renseignements sur les enfants, sur les bébés et sur les enfants. Et puis il y a donc Baldwin, et Baldwin lui s'intéresse effectivement à ce qui permet à l'enfant de passer d'un registre d'action à un autre. Et ses premières descriptions consistent à montrer que les bébés sont capables de faire des actions qu'ils répètent. Si ces actions trouvent un résultat positif, que le bébé considère comme positif, et qui s'éteignent si effectivement les actions ne sont pas récompensées. Alors, ça prend appui sur des lois de la psychologie générale, à savoir les lois de l'effet énoncées par Sondike, et Baldwin va considérer donc que ces actions, qui sont les actions que fait le bébé, vont être effectivement répétées en fonction de leurs résultats. Et qu'elles vont aussi se complexifier en fonction de leurs résultats. Alors, il faut garder ça présent à l'esprit parce que c'est quelque chose dont se resservira Piaget après. Donc, Baldwin commence à regarder et dit il faut s'intéresser aux jeunes enfants, aux très jeunes enfants. Et il a aussi une première affirmation qui est importante, c'est qu'il dit il faut une théorie, même si c'est pour la démentir. Il faut qu'on ait une théorie pour avoir un cadre d'études. Donc, il va œuvrer en fonction des théories. C'est important pour la psychologie française. Pourquoi ? Parce que Baldwin, on l'oublie souvent, est le premier qui va occuper une chaire de psychologie de l'enfant à Paris, à l'école des hautes études, puisqu'il n'y a pas de chaire de psychologie de l'enfant, il n'y a pas de chaire de psychologie dans les universités à l'époque. Il va y avoir l'enseignement de psychologie expérimentale délivré par Ribot à la Sorbonne, qui est un petit peu connexe à la philosophie, mais qui n'est pas engagé dans la philosophie. Mais Ribot ira bientôt au Collège de France. Il faudra attendre encore beaucoup d'années après pour que soit recréé un poste de professeur de psychologie expérimentale. Alors, il n'est pas question de psychologie du développement, de psychologie de l'enfant dans l'université, mais à l'école des hautes études, Gabriel Tarp, qui est un sociologue, et qui a entendu parler des travaux de Baldwin, car Baldwin fréquentait le laboratoire de Wundt et venait tous les ans en Europe, fait inviter Baldwin, parce qu'il a lu le livre de Baldwin qui s'appelait « L'enfant, je sais plus quoi, dans, je sais plus quoi, et dans la race ». Bon, et il est au labo chez nous. Et donc, il l'invite. Et en fait, Baldwin va donc venir à Paris et en 1913, et il va occuper cette chaire de psychologie de l'enfant à l'école des hautes études jusqu'en 1934, où ce sera Vallon qui prendra la succession. Donc je suis en filiation directe avec Baldwin. Parce que j'ai été après le successeur par Zazo interposé de Vallon. Donc tout ça, c'est la ligne des gens qui ont fait le développement. Alors, en 1900, il y a un intérêt aussi donc, qui se manifeste pour l'enfant, qui se manifeste en France, avec des gens comme Henri Vallon, qui travaille d'abord chez Najot, qui est un neurologue, et puis Piaget. Et Piaget va venir en France en 1916 pour aider Simon, Théodore Simon, à faire une refonte, la première, du fameux test de Binet-Simon. Binet est mort très jeune et il a laissé son test bon, qu'il avait fait avec Simon. Alors, l'idée de faire un test qui n'a en principe rien à voir avec le développement, ça a quand même à voir, on va voir pourquoi. D'abord parce que c'est l'idée qu'il faut donner à tous les enfants des chances de réussir. Et pour leur donner des chances de réussir, il faut d'abord les classer pour savoir où ils se situent par rapport à un principe quelconque. Alors le principe choisi, eh bien, c'est un principe de statistique, c'est-à-dire la réussite d'une épreuve ou de n'importe quelle action à un âge donné, faite par 50% au moins des enfants de cet âge. Donc c'est la médiane, puis la moyenne, puis le mode, donc un indice de tendance centrale qu'on va prendre comme norme pour savoir qu'est-ce que fait un enfant. Et Binet, dont on oublie quand même qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de manips et de recherches avant de faire son test, et même en le faisant, a donc catalogué un certain nombre de ce qu'on appellera des épreuves ou des items pour faire en sorte que savoir qu'est-ce que c'est un enfant, qu'est-ce que peut faire, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que fait un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, etc. Bon. Et l'idée, c'est de considérer que au cours des âges, il y a, à cause des acquisitions, une accumulation de connaissances qui se fait et qui va en fait transformer les comportements. Ça, c'est donc le principe de la psychométrie. Piaget arrive là-dedans. Il travaille avec Simon, travaille à l'école de la Grange-Aubel, qui était l'école dans laquelle on a fait, où s'est installée après la société Binet, dans laquelle Binet avait fait passer ses épreuves pour fabriquer son test. Et il va être tout de suite sensible à la manière dont on pose des questions aux enfants. Et c'est important pour Piaget, parce qu'il ne va jamais renoncer aux questions. On aurait pu penser que quelqu'un qui donne une définition ensuite de l'intelligence opératoire, où en principe le langage n'a pas un rôle important, va néanmoins jamais, jamais, jamais cesser d'interroger verbalement les enfants et de demander des réponses verbales. Alors, quand il s'intéresse au bébé, c'est autre chose, mais pour lui, c'est le début. Ce qui l'intéresse, c'est quand même la durée de l'enfance, c'est-à-dire ce qui sépare la naissance de l'âge adulte, donc c'est une longue durée, et dans cette longue durée, la petite enfance où l'enfant ne parle pas, où il n'est pas capable de répondre d'une manière ou d'une autre, elle est courte. Oui, donc, Piaget, et à ce moment-là, il y a donc Baldwin qui fait des séminaires, et il y a au Collège de France, Janet. Et Pierre Janet, qui n'est pas, en principe, un psychologue du développement, est quelqu'un qui a une idée sur ce que c'est que l'esprit. Et le fondement des conduites. C'est-à-dire que Janet, qui a étudié, comme vous le savez, les troubles de la personnalité et ce qu'on appelle aussi la maladie mentale, Janet considère que la maladie procède par déconstruction. C'est-à-dire que sont les plus fragiles les fonctions supérieures qui se sont mises en place le plus tardivement dans la vie. Le raisonnement logique, le raisonnement abstrait, voilà. Donc tout ça c'est ce qui est fragile et qui risque de se déstructurer, de se démolir plus facilement que ce qu'il y a en dessous. Donc l'idée que la maladie c'est une déconstruction l'amène à considérer qu'est-ce que c'est que la construction. Et donc il va installer au Collège de France un laboratoire dans lequel il va s'intéresser au développement de l'enfant. Par exemple, il va s'intéresser aux premières années où l'enfant commence à parler, justement, et ce qui intéressera Janet, curieusement, c'est le mensonge. À partir de quel moment un enfant est capable de dire quelque chose qui n'est pas vrai, qui ne s'est pas réellement produit? Est-ce qu'il est dupe, est-ce qu'il n'est pas dupe, etc. Donc, ça, c'est assez important. Et Piaget, par exemple, considérera qu'il a été très redevable à Janet de ses idées sur la construction de l'esprit, puisque c'est ce qu'il va reprendre, lui, dans sa théorie. Voilà. Donc, vers les années 1925, il y a en France un certain nombre de gens qui travaillent sur les enfants. Il y a donc Baldwin qui est là, il y a Vallon. Et Henri Vallon, qui se met à travailler sur les enfants, qui a un passé de philosophe et médecin, et qui va s'intéresser à partir d'un certain moment, il s'est intéressé aux émotions, il s'intéresse à des choses qui semblent très concrètes, comme par exemple la turbulence de l'enfant. Il va d'ailleurs écrire un livre qui s'appelle « L'enfant turbulent ». Bon. Et il va s'intéresser aux relations de l'enfant avec le monde physique pour savoir qu'est-ce que l'enfant apprend, qu'est-ce qu'il retient du monde physique, comment il fait ses connaissances. Point de vue qui n'est pas du tout étranger à celui de Piaget. Donc, il va par exemple se demander... Il y a des choses très, très... Quand on dit enfant, qu'est-ce que c'est que le feu ? Le feu, l'enfant sait très bien. À l'époque, si vous voulez, il y a des cheminées, il y a des poêles, on voit le feu dans les maisons. Donc, qu'est-ce que c'est le feu ? Et qu'est-ce que répond un enfant ? Alors, Vallon fait une enquête en demandant à l'enfant qu'est-ce que c'est que le feu, il recueille des réponses. Et dans ses réponses, il remarque qu'au départ, les enfants de 3-4 ans lui disent « le feu, c'est quand il y a de la fumée ». Ils disent pas c'est clair, ils disent pas ça brille, ils disent c'est quand il y a de la fumée. Donc, pour Vallon, ça va être une forme d'explication par son contraire, en opposition. Et il va, à partir de là, se demander si ça se reproduit pour d'autres phénomènes que le feu, pour des... Et il va étudier ce genre d'opposition. Ça va lui permettre de mettre au point une théorie dans laquelle il va expliquer des alternances dans le comportement de l'enfant. C'est important parce qu'on va y retrouver dans les périodes critiques alors qu'on lui en dénie toute paternité. Ça c'est Vallon. Donc Vallon s'intéresse aux mouvements, aux émotions, à la façon dont l'enfant va se conduire de vis-à-vis des objets, et il va en tirer assez vite une description avec une tentative d'explication théorique sur les différentes étapes. Piaget fait la même chose, au même moment, mais il le fait dans une autre sphère, j'allais dire. C'est-à-dire que ce qui intéresse Piaget, c'est... Piaget est un biologiste d'origine, hein, c'est un biologiste, c'est un spécialiste de malacologie valaisanne, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à des sortes d'escargots, de mollusques plutôt, qui vivent dans le lac Léman, qu'on appelle les limnées. Et ce qui l'a intéressé, ce sont les facultés d'adaptation des limnées. Facultés d'adaptation, ça vous renvoie à Darwin, etc. Darwin est toujours présent dans cette affaire. Et Piaget, quand il vient à Paris et qu'il se met à travailler sur l'enfant, va se rappeler aussi et va chercher comment est-ce que l'enfant s'adapte et qu'est-ce qui peut s'adapter. Et comme il est intéressé plutôt par l'intelligence, c'est en fonction de l'intelligence qu'il va commencer à regarder le développement. Oui, donc Piaget est venu pour ça à Paris, et ça lui donne l'idée de continuer à travailler sur l'enfant, et quand il rentre, il va aller à Genève, dans ce qui deviendra l'Institut Jean-Jacques Rousseau, où Claparède commence à réunir une équipe de gens qui font de la recherche. Et à partir de ce moment-là, il se met à travailler sur les enfants, et même sur les très jeunes enfants. Et puis c'est l'époque où il devient père de famille, et donc il va étudier lui aussi ses propres enfants. Et en particulier, il va regarder comment les enfants répètent, je reviens à Baldwin, répètent certains gestes, par exemple tirer sur un cordon pour obtenir quelque chose, etc. Et savoir comment ces actions vont à la fois se pérenniser et encore une fois se complexifier, etc. Et ça lui donne l'idée que, en fait, la période qu'il va appeler sensorimotrice, la période de 0 à 2 ans, qui est une période de construction, puisqu'on passe de la situation horizontale à la marche bipède, puisqu'on passe de la non-parole au langage, et au langage articulé, et qu'un bébé de 2 ans, il fait des phrases déjà, des bouts de phrases, il dit « maman promener » ou beaucoup plus que ça même. Et donc, Piaget considère que dans cette construction, eh bien, sur le plan de l'action, se produit quelque chose qui semble avoir des parentés assez étroites avec ce qui va se passer après, dans l'ordre de l'intelligence. Donc la période sensorimotrice serait une période de, effectivement, la première période du développement intellectuel, et pas seulement de l'action. Alors, pourquoi intellectuel ? Eh bien, parce qu'il va justement, s'attachant aux actions du bébé, montrer que ce ne sont pas seulement, les actions du bébé ne changent pas seulement en fonction des résultats acquis, mais qu'elles changent aussi parce que de l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler l'assimilation, il va donc emprunter au vocabulaire de la biologie les deux termes d'accommodation-assimilation, qui sont deux termes antagonistes, pour montrer qu'en fait, les actions du bébé répondent à la fois, sont à la fois des accommodats, donc montrent de l'accommodation aux conditions de milieu, mais aussi représentent une assimilation, c'est-à-dire qu'elles se transforment par l'exercice de l'intérieur, de manière à ce qu'elles soient plus stables, plus équilibrées, plus structurées. Et donc c'est ça, c'est cette alternance, c'est pas cette alternance, c'est cette réunion d'opposition, accommodation, assimilation, qui va faire effectivement l'intelligence. Et en 1937, il y a un grand congrès de psychologie à Paris, à la Sorbonne, et Piaget présente deux de ses ouvrages importants qui s'appellent « La naissance de l'intelligence », ça c'est un ouvrage encore resté important, et « La construction du réel ». Donc ça, voilà. Et ça va faire un tabac, si je puis dire, au congrès de 1937. Bon. Vallon est plus vieux, et il publie régulièrement depuis plus de temps. Mais là, ça fait, ça va justement aussi interpeller, comme on dirait maintenant, les Américains qui sont là, Murchison, Lewis Carmichael, etc., etc. Et on va discuter de ces thèses, par exemple, Paul Guillaume, qui est un psychologue qui à l'époque travaille sur l'animal, avec Meyerson, Paul Guillaume va discuter justement les thèses de Piaget sur la sensorimotricité, sur la formation des habitudes. On a donc déjà non seulement une psychologie du développement, un début, mais aussi on a un débat. Il y a aussi dans le débat, évidemment, les psychanalystes qui vont intervenir. Parce que les psychanalystes aussi ont dit des choses sur le développement. Plus exactement, ils n'ont pas dit des choses sur le développement, mais ils ont dit des choses sur des transformations qui se passaient au sein de la personnalité. C'est-à-dire le passage d'un stade oral au stade anal, au stade génital. Alors donc, en 1934, Vallon prend la succession de Baldwin à l'école pratique des hautes études et donc intitule un premier laboratoire, laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Terme qu'il va garder jusqu'en 1984 ou 86, je ne sais plus. Enfin bon, même moi, mon premier contrat avec le CNRS, c'est sous ce terme-là. C'est sous ce nom-là du laboratoire. Donc, Vallon crée ce laboratoire et il l'installe où il peut, c'est-à-dire dans des locaux de fortune, c'est-à-dire souvent dans des écoles, à Boulogne-Billancourt, un peu partout, et va se construire l'immeuble de l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle, 41 rue Gay-Lussac. Et cet immeuble va être construit non seulement pour assurer des enseignements, ceux qui mènent à l'orientation professionnelle, au diplôme de psychotechnicien que Pierron avait fait créer quelques années avant, et va aussi héberger des laboratoires de recherche des fondateurs de cet institut. Donc les fondateurs de cet institut, il y a Vallon, car Vallon ne s'est jamais désintéressé des applications, et à Sainte-Anne et ailleurs, il a mis au point des épreuves, des tests, des épreuves standardisées sur des aptitudes particulières. Donc, Vallon va entrer dans ce bâtiment et va y implanter le laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Parallèlement, après avoir travaillé, il va continuer à travailler sur les relations entre les mouvements et les émotions, mais aussi la pensée. Et donc, on aura, de même qu'on a eu l'évolution du caractère, on aura l'évolution de la pensée chez l'enfant, avant qu'en 1942, il fasse paraître un livre qui s'appelle « De l'acte à la pensée », qui est un livre théorique, que personne ne lit plus, et ben c'est bien dommage parce qu'il est remarquable. Voilà. Donc, Vallon va rester à la tête de ce laboratoire. Il va être professeur au Collège de France à partir de, je crois, 1934, le labo. Donc, ça doit être... Je crois qu'il est professeur au collège avant la guerre. Donc, ça doit être en 1938. Donc, il a une chaire de psychologie de l'enfant au Collège de France. Et il va donc continuer à faire des enseignements au Collège de France. Il va former en particulier des gens. Il va avoir aussi, comme quelquefois, des élèves qui vont lui arriver d'ailleurs, tardivement, comme Ajuria Guerra, des gens comme ça, qui viendront au moment de la guerre d'Espagne. Alors, donc Vallon reste à la tête du laboratoire de psychobiologie de l'enfant. Pendant la guerre, bon, bah, il se passe ce qui s'est passé pour pas mal de labos, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, et il y a des gens qui se cachent, et il y a des gens qui continuent à travailler en faisant autre chose. Donc, j'ai dit, Vallon fait paraître de l'acte à la pensée, et en 1945-46, il s'attellera au plan Langevin-Vallon après avoir été accepté d'être quelques mois ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement provisoire de la République française. Mais il laisse de plus en plus la place, à partir de 1954-55, il laisse de plus en plus la place à ses directeurs adjoints, c'est-à-dire Hélène Gracieux et René Zazo. René Zazo, alors là, c'est un cas un peu particulier. Alors, c'est le continuateur de Vallon pour toute la psychologie française. Tout le monde considère que c'est l'héritier de Vallon. Moi, je vais vous dire, c'est pas tout à fait mon avis. Mon avis, c'est que c'est plus l'héritier de Gözel que de Vallon. Car Zazo, qui a, avant la guerre, commencé sa carrière en s'élevant contre les maisons de redressement pour les jeunes enfants, est allé ensuite, il faisait des études de philosophie, là, comme tout le monde, il est allé ensuite à Yale, et il a travaillé chez Gözel. Et il lui est resté beaucoup de choses de Gözel, beaucoup. Il a réuni autour de lui une équipe. En 1964, quand les laboratoires associés ont été créés au CNRS, il a été un des deux premiers laboratoires français, avec le laboratoire de psychologie expérimentale, à être créé laboratoire associé, ce qui a permis de réunir des chercheurs à part entière. Avant la Première Guerre mondiale, il y a des recherches qui se font, qui sont publiées dans des revues, le journal de psychologie normale et pathologique, l'année psychologique, et des revues américaines, par exemple le Psychological Bulletin, ou des revues allemandes, ou des revues anglaises. Mais c'est un peu épars, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas, à part le laboratoire Vallon, il n'y a pas de laboratoire de psychologie de l'enfant. Il y a un laboratoire Bourdon à Rennes qui s'intéresse à des problèmes de perception et que Bourdon va étudier chez les enfants, mais sans avoir l'idée de faire une psychologie du développement. Donc ça va entrer dans la psychologie générale, mais il n'y aura pas d'autres laboratoires pendant un temps. Bon, alors, il n'y a pas d'autres laboratoires. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas d'enseignement de la psychologie intégrée dans les universités, autonome mais intégrée dans les universités. La France va être en retard sur les autres pays pour ça. En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, il y a très vite, au début du XXe siècle, il y a très vite création de filières, de cursus de psychologie. On forme des gens qui auront des titres de psychologues, pas en France. Donc, il va falloir attendre, je vous l'ai dit, la création de la licence en 1947-1948. Il y aura d'abord le certificat de psychophysio installé par Pierron dans les facultés des sciences, par Pierron. Mais Pierron n'est pas lui-même un universitaire au sens professeur d'université. Il est professeur au Collège de France. Donc il faut qu'il s'adjoigne Pierre-Paul Grasset, qui est professeur d'université, et d'autres gens pour que ces gens arrivent à forcer le blocus et à faire... Il n'y a pas un gros blocus en faculté des sciences, mais enfin, pour arriver à installer. Mais en faculté des lettres, rappelez-vous qu'il y avait eu Bergson, et la tutelle de Bergson a empêché Binet d'avoir jamais un poste à la Sorbonne. Parce que Binet n'était pas philosophe, et donc Binet était un licencié de sciences naturelles, docteur en sciences, et il n'a jamais pu avoir un poste à la Sorbonne. Il a eu la direction du laboratoire de psychologie expérimentale et comparée, qui s'appelait à l'époque laboratoire de psychologie physiologique, après Bonis, mais il ne l'a pas gardé longtemps, puisqu'il est mort en 1911, et c'est Pierron qui lui a succédé. Donc, il n'y a pas de formation, si vous voulez, de gens qui puissent se consacrer à ça. Les gens qu'on va voir arriver en psychologie du développement sont des gens qui viennent d'ailleurs. Bresson est agrégé de philo. Pierre Grecto est agrégé de philo. Et on fait appel à Piaget en 1952. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne pour prendre la relève. Il n'y a pas quelqu'un qui serait à la fois agrégé de philo pour pouvoir être détaché de l'enseignement secondaire et pour pouvoir prendre un poste dans une faculté qui est une faculté des lettres. Ça explique beaucoup de choses. Alors, la licence de psychologie donc, a été créée en... Tous les certificats qui ne sont pas le certificat de psychophysio sont attachés à la faculté des lettres. Ça, c'est Lagache qui l'a fait. Il l'a fait non pas parce qu'il tenait tellement à ce que ce soit dans les facultés des lettres, mais c'est parce que c'était là où les gens pouvaient avoir des postes en tant qu'agrégés de philo et éventuellement médecins. Zazot, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, le Bureau international de l'éducation, soucieux de ce qui est arrivé aux enfants dans les pays d'Europe centrale, un peu partout, se dit qu'il faut faire quelque chose pour les enfants. Et pour, justement, il faut des recherches pour qu'on puisse donner à l'enfant les meilleures chances de développement. Et sous l'impulsion du BIE, se crée, avec le Centre international de l'enfance, que dirige à l'époque Robert Debré, se crée un groupe d'études, ce qu'on appelle le study group, qui veut rien dire, groupe d'études, sur le développement, qui va être un groupe d'entrée de jeu pluridisciplinaire, avec des sociologues, il y aura Margaret Mead par exemple, avec des gens comme Tanner, qui se sont intéressés à l'anthropologie physique, avec des gens comme Bowlby, qui est un psychanalyste au départ, mais pas seulement un psychanalyste, avec des gens comme Monnier de Zurich, qui est un physiologiste, avec Piaget, Inelder, et en principe Vallon. Et comme Vallon est déjà pas très bien dans sa peau, enfin il a des problèmes de santé, c'est Zazot qui y va. Et ce groupe va se réunir pendant plusieurs années, et il va travailler, et il va y avoir des publications régulières de ce groupe. Et malheureusement, il ne débouchera pas sur ce que voulait le BIE, c'est-à-dire une coopération internationale structuré en matière de développement, mais il va d'abord permettre à Piaget de prendre pied aux États-Unis, parce que les Américains vont rapporter aux États-Unis ce qu'ils ont entendu dans le study group, et ça va les convaincre qu'il faut inviter Piaget et Inelder Darda, ce qu'ils vont faire. Et puis, les thèmes, les concepts piagétiens, celui de stade en particulier, l'accommodation, l'assimilation, vont être justement les concepts sur lesquels, malgré toutes les différences, les gens vont se reconnaître. Donc ça va encore asseoir, si vous voulez, la stature de Piaget, ça. Elle était déjà assise, mais ça va encore l'asseoir plus solidement. Et ça va donner naissance au Centre d'études d'épistémologie génétique, puisqu'il va écrire son traité d'épistémologie en allant et revenant des États-Unis en 56. Entre 52 et 56. Donc ça va avoir quand même des conséquences. Et pour Zazot, quoi ? Ben, Zazot se convainc que s'il y a une psychologie du développement qui doit être faite, il ne faut pas qu'elle soit uniquement basée sur le développement intellectuel, ni sur le développement affectif, ni sur le développement émotionnel, mais que ce qui est important, c'est justement de voir les interrelations. Et ses études sur les jumeaux vont lui permettre justement de regarder ces interrelations. Ce qui fait que ça ne le coupera pas complètement de la psychologie clinique, qu'il aura une méthode qui sera en partie expérimentale, mais beaucoup clinique aussi, et qu'il va continuer sur cette lancée pendant assez longtemps. Mais aussi avec des situations de type expérimental, par exemple l'enfant devant le miroir, par exemple le problème de l'image spéculaire. C'était plus expérimental chez Piaget que chez Zazot. Et alors, comme Zazot, comme je vous l'ai dit, est le continuateur, le disciple et le successeur de Vallon, il va être forcément embringué dans les discussions qu'il va y avoir entre les partisans de Piaget et les partisans de Vallon. Alors, les partisans de Piaget, c'est quoi ? Ben, c'est ceux qui enseignent la psychologie de l'enfant. C'est-à-dire, c'est Oléron, Gréco, etc. Les quelques-uns qui, au départ, et Bresson, se mettent à la psychologie de l'enfant. Bon, et qui ont travaillé ou travaillent avec Piaget. Et puis, ensuite, Vourpillot, etc. Et on a Piaget comme professeur. Moi, j'ai eu Piaget comme professeur de psychologie de l'enfant à la Sorbonne. C'est pas rien. Parce que son cours sur la perception, c'était pas de la tarte. Et donc, quand on arrivait, ça démontait quelque peu, parce qu'on s'attendait pas du tout à ce que pour un cours de psychologie du développement, vous parle des centrations relatives, etc. Donc Piaget. En psychologie du développement en France, c'est assez rare qu'elles aient une individualité totale. C'est pas Genève. D'ailleurs, même Genève maintenant n'est plus Genève, j'allais dire. Donc, elles sont en général des équipes dans des laboratoires qui quelquefois portent un autre nom ou le terme de développement n'est même pas apparent. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est vrai, si vous voulez, que c'est pas un secteur isolé et complètement à part des autres dans la psychologie. Et ça ne voulait pas l'être au départ, puisque je vous dis encore une fois, ça voulait être une part de la psychologie générale. Donc, il y a des discussions, et c'est assez pénible, parce que on dénie aux uns le droit de s'occuper de l'enfant, on dénie aux autres le droit d'avoir des idées sur le développement. C'est complètement aberrant. Bon, là-dessus, il y a quand même les recherches continuent d'avancer. Alors, pendant longtemps, l'école de Genève, après s'être intéressée à l'intelligence, avec les épreuves opératoires que vous connaissez, les conservations, les sériations, etc., s'est intéressée à la perception. Bon, et quand les Français se mettent à travailler avec Fraisse s'intéresse à la perception du temps, et il va y avoir des gens dans son laboratoire qui s'intéressent à la perception. C'est le cas d'Éliane Durpillot, qui va s'intéresser aux illusions optico-géométriques. Ça va être après mon cas, puisque je m'intéressais à l'espace et aux constantes perceptives. Donc on est très dépendant de Piaget, si vous voulez, dans ce sens. C'est très son patron, mais c'est vrai que je suis beaucoup à Genève et que je montre mes trucs au patron, comme on disait, c'est-à-dire à Piaget. Bon. Donc Piaget a encore un grand... Et à l'époque, il vient encore en France. Il ne cessera d'enseigner à la Sorbonne qu'en 1960 ou 61, je ne sais plus, quand Pierre Oléron sera nommé. Mais personne ne nous voit comme des psychologues de l'enfant. Ni Durpillot ni moi ne serons jamais vus comme des psychologues de l'enfant, jamais. Et donc, quand Zazo, moi j'ai un poste universitaire en psychologie expérimentale, donc en psychologie générale. Qu'en 1969, il n'y a pas encore, 69-70, il n'y a pas encore de gens. Il n'y a pas encore de réserve, si vous voulez, pour qu'on ait des gens qui prennent un poste de maître assistant ou de maître de conférence. À l'époque, ça s'appelle comme ça, le premier degré de professeur, en psychologie de l'enfant. Et donc, en 79, quand Zazo prend sa retraite, Zazo s'est convaincu que, un, la psychologie a changé, et deux, que il y a une optique intéressante, c'est celle qui commence à s'intéresser aux premiers âges de la vie. Alors, c'est pas nouveau qu'on s'intéresse aux premiers âges de la vie. Si on regarde ce qui s'est passé entre les deux guerres, c'est-à-dire à un moment où la psychologie foisonnait, commençait son ascension, en Allemagne, il y a eu toute une école qui s'est intéressée aux apprentissages dès la première année, avec des techniques de conditionnement type conditionnement animal. Bon. Il y a eu aux États-Unis aussi des gens qui se sont intéressés à la première année en notant les progrès, etc. Il y a eu les recherches sur l'intelligence pratique qui ont comparé l'animal et l'enfant sur des problèmes où on n'avait pas besoin de langage. Trouver la sortie d'un labyrinthe, trouver le mécanisme qui ouvre une boîte où il y a un appât ou un petit bonbon ou quelque chose, etc. Et qui sont des recherches qui ont été faites en comparaison entre l'animal et l'homme et l'enfant. Il y en a eu par bout temps en France, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu... Donc, c'est pas vrai qu'on s'est pas intéressé aux premiers âges. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on s'est pas demandé qu'est-ce que c'était que le développement avant la naissance, après la naissance et pendant les deux premières années de la vie. Et ça, c'est vrai que c'est une interrogation qui prend corps dans la recherche après 1960. On a découvert aussi des techniques. Et c'est la boîte de Fonz. C'est-à-dire que Fonz s'est intéressé à savoir les bébés nouveau-nés. On dit, les bébés nouveau-nés, ça ne voit pas. Bon, après on dit, ça doit voir quelques petites choses, mais pas grand-chose. Bon. Et comment ça va commencer à voir le monde tel qu'il est? Alors, la psychologie de la forme avait dit, on voit le monde tel qu'il est d'entrée de jeu. Il y a une ségrégation figure-fond immédiate. Or, la ségrégation figure-fond, elle est spatialisée puisqu'elle fait voir l'objet en avant du fond. Mais est-ce que le bébé est capable de ségréger une forme et un fond? Alors, s'attelant à ce problème, un psychologue américain qui s'appelle Fonz invente un truc complètement... c'est très ingénieux et c'est très simple. Il invente une boîte avec deux fenêtres. Voilà. Alors, dans une fenêtre, et on les sépare par un intervalle qui est suffisant pour que le bébé soit obligé de bouger les yeux et la tête pour regarder d'un côté ou pour regarder de l'autre. Au milieu, on met un petit trou, et quand on se met derrière la boîte, on peut voir ce que le bébé regarde. Bon. Donc, avec ça, eh ben, on va regarder si le bébé fait une ségrégation figure-fond. Et qu'est-ce que c'est qu'un objet pour un bébé? Et est-ce que s'il y a un objet en trois dimensions, il le regarde plus, moins, plus fréquemment, moins fréquemment, plus encore, plus longuement qu'un objet en deux dimensions? Et est-ce qu'il les différencie ou pas, etc. Donc, on a tout un panel, si vous voulez, de recherches sur la perception qui, avec Fonz, vont démarrer. En même temps, vous avez le père Gibson, Gigi, qui invente son système, à savoir, Gibson pense, et là alors on revient à des choses même antérieures à la psychologie de la forme et au système de Hering. Gibson est un peu là des constructions théoriques psychologiques. Et il trouve qu'il y a beaucoup trop de concepts dans tout ça, et beaucoup trop d'idées de construction mentale. Donc lui, il se demande, est-ce que finalement le système visuel n'est pas agencé de telle manière que, au fond, il nous donne beaucoup de possibilités de voir le monde comme il est. Et les premières recherches de Gibson s'apparentent en fait à celles d'un physiologiste du 19e siècle qui s'appelait Hering et qui avait fait la théorie qu'on appelle des signes locaux. Alors, l'idée de Gibson comme celle de Hering, c'est le système visuel est agencé pour nous montrer le monde comme il est. Autrement dit, qu'est-ce qui arrive dans la rétine? Ce sont des alternances de points lumineux et de points obscurs. Cette alternance, elle a une certaine densité en fonction de l'éclairement, en fonction des objets, etc., et des ombres projetées. Donc, il va y avoir une quantité optique qu'on va pouvoir déterminer et une densité optique. Si vous avez un objet quelconque délivrant une certaine quantité optique, que vous l'éloignez ou que vous le mettez dans l'ombre, la quantité optique ne va pas changer, mais la densité optique va changer. Et ça va vous permettre de faire un gradient. Et ça va vous permettre de vous dire, par exemple, que ce qui est plus loin est plus petit, et vu plus petit. Donc, en fait, il faut corriger. Et que la correction, elle est faite directement. Bon, ça, c'est le premier point de la théorie de Gibson. Deuxième point, c'est que Gibson se demande si, en fait, il n'y a pas des équivalences qui se forment entre la perception et le mouvement. Puisque vous bougez les yeux pour voir, est-ce que le mouvement que vous faites pour voir, est-ce qu'il ne vous donne pas des indications aussi sur vos perceptions? Est-ce que vos perceptions ne sont pas, en quelque sorte, dépendantes de vos propres mouvements? Est-ce qu'il n'y a pas une équivalence qui s'instaure entre perception et mouvement? Alors, ça trouvera son achèvement, ça, dans les théories de von Holst. Hein, mais avant, il y a ça chez Gibson. Ça, c'est très psychophysique pour l'instant. Mais voilà que Gibson, regardant ce que font les petits-enfants, et qui travaille avec son épouse, Eleanor Gibson, Jackie, qui est aussi très battante et qui est quelqu'un de très bien, elle travaille justement sur les apprentissages, sur ce qui se transforme, etc. Et en 1954, elle a l'idée de mettre sur une plateforme qu'on appelle une falaise visuelle, avec un dénommé Clark, ils mettent des quantités des petits animaux, des bébés, ils vont les mettre sur cette falaise visuelle. Alors qu'est-ce que c'est une falaise visuelle? C'est une table qu'on partage en deux. Il y a un côté de la table qui est translucide, transparent, Et donc, il y a de la profondeur, puisqu'il y a la table, c'est haut, il y a des pieds, etc. Bon. Et l'autre partie, on met un cache juste sous la surface de verre. Donc, c'est pas transparent. Donc, le bébé, quand il est sur la partie où il y a un cache, il peut se croire au sol. Par contre, si on le fait passer sur la partie transparente, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va mettre sous la partie transparente, recours aux idées de Gibson, un damier. Bon, à hauteur du sol cette fois. Bien. Et on va voir si l'enfant passe ou ne passe pas. Autrement dit, est-ce qu'il a une idée de la profondeur ou est-ce qu'il n'en a pas? Et alors, comment on fait l'expérience? Bon, on met la mère à l'extrémité du côté transparent. On met le bébé sur le milieu du côté ombre, c'est-à-dire du côté où il n'y a pas, c'est pas la falaise, et la mère appelle le bébé. Puis on va voir si, à l'âge où il rentre, s'il rentre vers la mère. Voilà. Alors on le fait avec des chats, avec des chiens, avec des rats et avec des petits bébés. Et donc ça, ça va donner à Gibson l'idée qu'effectivement, il y a un âge où le bébé va le faire, il y a un âge où le bébé ne le fera pas. Alors, bon, il va s'interroger, je passe sur la partie explication en termes d'image visuelle, parce que ça, ça ne regarde pas la psychologie du développement, ou du moins indirectement. Mais par contre, ce qui va l'intéresser, c'est pourquoi il passe à certains moments, il ne passait pas avant. Alors que ce n'est pas en termes d'action, en termes de possibilités motrices que ça a changé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il va passer? Alors, Gibson se dit qu'au fond, il va inventer une notion pour tenir compte de ça, c'est-à-dire il va penser que, après tout, si on décrit le monde, le monde, c'est quelque chose qui pour nous a une signification. Pourquoi ça n'en aurait pas pour le bébé? C'est probablement pas la même, mais ça doit en avoir une. C'est un écosystème, autrement dit. Donc, si on considère que le monde a une signification, y compris pour le tout petit, à quoi est liée cette signification? Et Gibson pense que c'est lié aux actions qu'il peut entreprendre et aux actions qu'il peut réussir. D'où la notion d'affordance, qui est un terme barbare, si on peut dire, puisque to afford, ça veut dire se procurer, se faire plaisir, faire quelque chose. Voilà. Mais le concept, le mot commun, le nom commun n'existait pas. Alors, à partir de là, ben, il va élaborer toute une théorie qui est effectivement assez simple par rapport aux constructions, que ce soit de Vallon, que ce soit de Piaget ou d'autres, sur le développement. C'est plus difficile aujourd'hui que ça l'a été, mais ce qu'il y a, c'est que au départ, en 1960, dans les années 60, hein, il y a quelqu'un qui va aux États-Unis, une chercheuse française, c'est Liane Vurpillo, qui va aux États-Unis. Elle va travailler avec Jérôme Brunner à Harvard, et elle va travailler, elle aime bien les Gibson, et elle va un peu travailler avec Gibson. Et elle va en rapporter, elle va aussi récolter les travaux de Fans, etc. Et c'est elle qui va rapporter au départ une revue de questions, qui paraît dans l'année psychologique, si je ne m'abuse, en 1964, et qui dit, voilà où on en est, dans les recherches maintenant sur les âges précoces et ce qu'on peut dire du développement. Et elle présente effectivement les thèses de Gibson, bien qu'elle soit, elle, au départ, piagétienne, puisqu'elle a travaillé avec Piaget, qu'elle a travaillé même sur un problème très, très précis, qui est celui des illusions primaires et secondaires, et du rôle des activités perceptives. Donc, c'est elle qui introduit, si vous voulez, Gibson en France. Alors, Gibson va avoir un petit peu de mal à être introduit en France, parce que il fait figure de non-cognitiviste et qu'au fond, que ce soit par Piaget, que ce soit à travers la filiation Helmholtz, j'entends par là qu'il y a quand même Yves Legrand au Muséum d'Histoire Naturelle, qu'il y a quand même toute une école française qui est cognitiviste. Et donc, au départ, la théorie de Gibson ne vont pas être acceptées d'entrée de jeu, si vous voulez. Il va y avoir ces sous-bénéfices d'inventaire. Et puis, il va venir des chercheurs américains, comme Spelk, comme d'autres, qui vont effectivement raconter plus encore Gibson. Et donc Gibson va s'introduire effectivement après par les travaux des uns et des autres, par les thèses de Binet-Simon. Il était envoyé à Paris par son maître, je ne sais plus, ce n'était pas encore Claparède, c'était quelqu'un d'autre, mais il va être très, très vite en relation avec Claparède, et après ça, il ira à Genève avec Claparède, etc. Et Claparède aura aussi une influence sur son œuvre par la genèse de l'hypothèse et tout ça. Alors, aujourd'hui, il y a deux choses. Premièrement, une partie des cognitivistes a récupéré du Gibson. Deuxièmement, une autre partie réductionniste, pourrait-on dire, avec la théorie, la dynamique des systèmes, c'est-à-dire avec des modèles mathématiques de fonctionnement du système nerveux et des muscles,
ont également récupéré des bouts de Gibson. Donc, en fait, si vous voulez, Gibson, il est un peu à cheval. Alors, le problème est que, du coup, pendant un temps, on l'a vu avec Alaïsis, bon, c'est-à-dire avec l'International Conference on Infant Studies, qui n'était au départ pas une société, qui était simplement un groupe informel qui formait, qui tous les deux ans essayait de faire un congrès, bon, et puis qui est devenu une société. Eh bien, dans cette société, on a d'abord été extrêmement gourmand de faits, très gourmand de faits. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on s'est dit, mais enfin c'est fait, on est dans une panade invraisemblable, parce qu'on a des faits de toute nature et de tout machin. En plus, on s'est quand même ouvert aux pédiatres, à des gens qui n'étaient pas à l'origine psychologues. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'où, de nouveau, une sorte d'appétence pour les théories. Mais, si vous voulez, en l'an 2000, par exemple, au congrès de Brighton, on a entendu des exposés théoriques parfaitement contradictoires. Parfaitement contradictoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité. Et je ne sais pas s'il y en a pour l'instant. Moi, je suis à retraite depuis 5 ans. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait, à l'heure actuelle, une unité théorique en matière de développement. Piaget, pendant un temps, a été considéré comme... C'était trop lourd. On allait l'évacuer. Et puis, encore une fois, je vous dis, il y avait tous les gens qui considéraient que c'était pas assez occupé de l'enfant. Alors... Il y a eu le fait que l'interprétation des idées de Piaget n'est pas toujours facile, et on le sait. Parce que quand on fait des travaux pratiques avec les étudiants, et qu'on fait des épreuves de conservation ou de sériation, etc., et que les étudiants viennent vous dire « Ah ben moi j'ai vu un enfant de 4 ans, il a la conservation », toujours pour Piaget, c'est pas seulement que l'enfant dise « c'est pareil » quand c'est pareil, et que ça a l'air de ne pas l'être, mais c'est aussi qu'il explique pourquoi c'est pareil. Et Piaget considérait qu'il y avait trois arguments qui devaient devenir pour l'enfant absolument interchangeables. L'argument d'identité. Vous avez versé de l'eau qui était dans un verre de section large, dans un verre étroit, donc forcément l'eau va plus haut. Mais c'est la même quantité d'eau. Vous n'avez rien enlevé, vous n'avez rien ajouté. Donc c'est l'argument d'identité. C'est l'argument de compensation. Bien sûr, ça a l'air d'être moins, mais parce que là c'est large et là c'est étroit, etc. Donc la compensation perceptive. Et puis l'argument de réversibilité. Si vous reversez ce que vous venez de, le liquide que vous venez de transporter d'un vase d'une certaine manière, d'un verre d'une certaine forme dans un verre d'une autre, vous aurez la même chose. Donc, vous aurez la même chose que vous aviez précédemment. Donc, c'est ces trois arguments. Or, tout ce qu'on a, tous les psychologues qui ont travaillé avec les enfants vous diront que c'est pas vrai que ces arguments soient interchangeables et équivalents pour les enfants. Qu'il y a, en fait, une hiérarchisation des arguments qui se met en cause, en compte, et que l'argument d'identité est l'argument qui est très difficile que les enfants l'utilisent. C'est presque jamais les enfants vous diront, bah oui, mais c'est la même boulette de terre glaise, ou c'est la même quantité d'eau. Avant un certain âge. Donc, il y a eu des problèmes aussi avec les épreuves de Piaget. Il y a eu autre chose, c'est que si on veut tirer quelque chose des épreuves de Piaget et savoir plus finement, Piaget a mis des balises. Bon. Mais entre les balises, il y a encore des choses à faire. Hein. Bon. Il a parlé aussi, il a un peu rempli les espaces avec les décalages horizontaux, mais ils ne sont pas complètement remplis. Donc, le problème, c'est si on veut comprendre ce qui se passe, réellement, et en faisant une genèse alors détaillée, si vous voulez, même sur la longue durée, et il faut avoir un ordre dans les manipulations pour savoir ce que l'enfant tire. Parce que l'enfant, il répond à ce qu'on lui demande, mais il répond, il se rappelle aussi ce qu'il a répondu 2 minutes avant. Faut pas croire quand même que parce que c'est un enfant de 5 ans, il a perdu complètement le souvenir de ce qu'il a fait 1 minute avant ou 2 minutes avant. Donc, il y aurait à refaire des expériences piagétienne, en tenant énormément compte de l'ordre de présentation des épreuves, et alors en fabriquant plusieurs ordres possibles et en voyant comment justement les réponses de l'enfant changent en fonction de ces variations. Et ça n'a jamais été fait systématiquement. Jonker avait commencé à le faire au Centre d'épistémologie génétique, mais il ne l'a pas poursuivi parce que c'est très fastidieux. Alors c'est vrai aussi qu'il y a d'autres considérations qui rentrent dans les réponses de l'enfant. L'enfant peut ne pas bien comprendre la question qui lui est posée. Enfin, chacun sait ça depuis le Binet-Simon. Qu'est-ce qu'il y a de bête là-dedans? C'est vous. j'ai trois frères, Paul, Ernest et moi, qu'est-ce qu'il y a de bête là-dedans? Et l'enfant, à 5 ans, dit, c'est toi. C'est le mot vous, mais c'est moi. Enfin, je veux dire, c'est la transposition de c'est moi. Et dans le Binet Simon, rappelez-vous que ce n'est pas accepté. Bon. Donc, il y a comme ça des décalages. Il y a des obstacles, des pierres d'achoppement qui sont bêtes, mais sur lesquelles on continue d'achopper. Alors, bon, ça, c'est pas grand-chose. Mais pour ce qui concerne, par exemple, des épreuves, il y a quelquefois un enfant va donner une réponse simplement. Bon, moi, je me rappelle avec Pierre Gréco, on faisait une épreuve sur les surfaces. Hein, et pour montrer que deux surfaces étaient identiques, on avait mis une tablette de chocolat. Et on disait, est-ce que tu as la même chose de chocolat à manger que moi? Puis on a eu un enfant qui faisait des erreurs systématiques, qui détestait le chocolat. Quand on est passé à la prairie pour les petits moutons, il n'a plus fait d'erreurs systématiques. Alors, il y a des choses de ce genre qui interviennent. Il faut s'assurer donc que l'enfant comprend la question comme la pose l'expérimentateur. Ça, c'est valable pour toute la psychologie. Pas seulement pour l'enfant, c'est valable pour les adultes, c'est valable. Même quand vous avez le même système de signalisation, c'est valable. Alors, bon, donc ce que je voulais en venir, c'était dire qu'on a trouvé que le système de Piaget était trop lourd. Surtout quand on arrivait au stade des opérations formelles, où là, effectivement, la plupart des étudiants ne comprennent même pas le raisonnement. Donc, ce n'est pas la peine. Parce que donner les preuves du pendule à des étudiants. Bon, les preuves du pendule, il n'y a pas un étudiant qui vous dira que l'oscillation ne dépend pas ou de la masse ou de la longueur du fil. Et donc, vous avez un problème qui est lié au fait que probablement, il a trouvé des épreuves qui sont extrêmement performantes au niveau intellectuel, mais justement tellement performantes que la réussite n'est pas assurée. Donc, là, il y a un problème, et il y a un problème surtout pour des systèmes où on n'aime pas tellement l'abstraction. Et ça, c'est vrai dans le monde anglo-saxon. On le voit, les anglo-saxons sont assez rebelles à l'abstraction, et ils nous reprochent d'ailleurs d'être souvent trop abstraits. Et donc ça, je crois que ça a été aussi une gêne dans la compréhension de Piaget par d'autres. Ce qui s'est installé, c'est l'idée de privilégier la chronologie. C'est-à-dire de dire, voilà ce que fait un enfant à 3 ans, voilà ce qu'il fait à 4 ans, voilà ce qu'il fait à 5 ans, etc. Mais sans se demander quel est le lien entre ce qu'il fait à 3 ans et ce qu'il fait à 6 ans. Or, le développement, c'est l'idée d'une construction logique. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une relation logique entre les étapes. Qu'on appelle ça étape, qu'on appelle ça stade, qu'on appelle ça comme vous voudrez. Mais qu'il y a cette relation. Or, dans beaucoup de gens qui travaillent, chez beaucoup de gens qui travaillent sur le développement, cette idée est absente. C'est-à-dire que ce qui les préoccupe, c'est la chronologie. Deuxième chose qui a nuit aussi à la psychologie de Piaget, c'est la psychologie de Piaget. Piaget représente le développement comme une construction. Il n'y a pas de retour en arrière chez Piaget. Un enfant qui a le stade opératoire, il ne va pas revenir au stade préopératoire. Et or, dans beaucoup de situations concrètes, on observe des régressions au moins apparentes. Et surtout si, par exemple, on a un conflit entre deux éléments ou deux aspects de la situation. À un moment donné, l'enfant, plutôt que de prendre en compte les deux aspects, va choisir de prendre en compte un parce que c'est plus facile. Bon. Et alors qu'avant, par exemple, il aura réussi à prendre en compte les deux. Alors, il y a des régressions. Il y a des régressions comme ça chez le bébé aussi. Il y a un âge où le bébé tend la main vers les objets. Il y a un âge où, effectivement, il repousse les objets par difficulté de freinage dans l'appréhension, etc. Bon, donc, il y a des régressions apparentes. Et ces régressions apparentes ont fait douter que le système soit une construction permanente et tellement bien organisée. La théorie dynamique des systèmes, d'abord, elle a plusieurs... plusieurs expressions. On ne trouve pas les mêmes choses chez Thélène et chez d'autres. Et en plus, si vous voulez, ce sont des modèles mathématiques qui sont quand même réduits à une sphère, qui ne s'appliquent pas à tout. Et la généralisation des systèmes, des théories de la dynamique des systèmes, c'est pas facile. Alors, si vous lisez, il y a quand même dans un livre de psychologie cognitive, des Gardner, qui a été traduit en français, il y a une tentative pour replacer ce genre de théorie dans une psychologie cognitive. Mais il faut se rappeler aussi que, contrairement à ce qu'on croit à l'heure actuelle, les sciences cognitives ne sont pas une théorie cognitive. Les sciences cognitives sont l'objet, ont fabriqué leur objet, la connaissance étant leur objet, mais ça ne veut pas dire que toutes les explications que donnent les sciences cognitives soient cognitivistes. Ça, c'est aussi un des écueils qu'on a avec les étudiants. La période critique, ça, c'est une découverte à la fois des éthologistes et des physiologistes, des neurophysiologistes. Les éthologistes, ils parlent du phénomène d'imprégnation. C'est-à-dire, ils parlent du fait que dans certaines espèces animales, probablement même dans beaucoup d'espèces animales, le premier objet avec lequel un nouveau-né se trouve en contact va déclencher une réaction dite d'imprégnation, c'est-à-dire que l'animal va se mettre à s'attacher à cet objet, à suivre cet objet, à ne pas vouloir quitter le contact de cet objet. On m'a fait le coup avec un poussin au laboratoire de mon époux à Lille et j'ai eu le plus grand mal à pouvoir éloigner ce foutu poussin que je transportais avec moi dans une boîte à sucre remplie d'ouates. Alors, donc, l'imprégnation. Cette imprégnation, elle dure. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est durable. Alors, il dure un certain temps. Bon. Il va finir par, contrairement à ce qu'a dit Lawrence, à s'estomper dans le temps. Mais, effectivement, pendant un temps, il dure. Donc, c'est la persistance de ce phénomène. Et ensuite, pourquoi ça va changer ? Qui a intéressé les éthologistes. Donc, ils ont vu le phénomène d'imprégnation comme une sorte d'ouverture du système nerveux central aux effets du milieu. Bon. Ce qui a été confirmé ensuite par les physiologistes. Alors, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui fait l'ouverture d'une période. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une période critique ? C'est une période pendant laquelle le système va s'ouvrir aux influences du milieu beaucoup plus et de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus systématique que dans la période précédente, immédiatement précédente. Cette période, elle va avoir un début, elle va avoir une fin. Et le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui gouverne l'ouverture d'une période critique et qu'est-ce qui gouverne sa fermeture. Alors, d'abord, on a donc repéré ces périodes critiques très très précoces et on l'a dit pour le langage, par exemple, un enfant qui n'apprend pas à parler à l'âge où tous les autres enfants apprennent à parler, va avoir après du mal à apprendre à parler. Et quelquefois même, il ne va pas y arriver. Cas des enfants sauvages, effectivement, non seulement Victor, mais Kamala et Amala, etc. Donc, qui n'ont jamais appris réellement à parler. Donc, qu'est-ce qui fait que quelque chose est possible à un certain moment, qui devient impossible après ? Et qui, entre parenthèses, veut dire que le développement n'est pas seulement une affaire d'acquisition, mais que ça peut être une affaire d'émergence, pour employer un terme, et d'émergence qui ne sont pas nécessairement liées aux conditions de milieu. Voilà, donc là, il y a toutes sortes de choses à reprendre là-dessus. On ne parle plus de période critique, parce qu'on s'est aperçu qu'en général, elles ne sont pas complètement closes, ou complètement, elles ne constituent pas des barrières infranchissables. Mais c'est plutôt comme ça qu'on devrait le dire. Mais en fait, elles constituent des périodes qu'on appelle sensibles maintenant. Une petite nuance, période sensible. Mais bien sûr, les périodes sensibles existent. On en a trouvé dans le système visuel, on en trouve dans la plupart des systèmes sensoriels et qui sont liés effectivement au rythme de développement des systèmes. Alors rappelez-vous quand même que entre les rythmes de développement fœtal et les rythmes de développement postnatal, il y a une sacrée différence et que ça n'est pas parce qu'un système est ancien et mis en place très précocement, y compris fonctionnellement, qui va se révéler plus efficace, plus performant après la naissance. Cas de la vision. Dernier système à se mettre en place, beaucoup plus performant que le toucher au départ. Moi, je prends le labo Zazo en charge à partir de octobre 79. Enfin, le contrat CNRS démarra au 1er janvier 80 et je le tiendrai jusqu'en octobre 2001. Donc, j'y passerai 21, presque 22 ans de ma vie. Voilà. Et ce laboratoire, au bout de quelques années, on va l'appeler psychobiologie du développement. Psychobiologie, on y tient. Pourquoi ? Non pas qu'on soit des biologistes de formation, mais parce qu'il nous semble important, travaillant surtout, puisqu'on s'est fait une spécialité de travailler sur les âges précoces de la vie, il nous paraît important de relier les indices qu'on peut avoir de fonctionnement ou de développement nerveux avec les comportements. Et donc d'axer une optique de recherche sur le développement neurocomportemental. Voilà. Alors, bon, c'est peut-être dit de façon un petit peu trop, comment dire, exagérée. Parce que, en fait, on s'est servi d'indicateurs, mais pas toujours d'indicateurs physiologiques, justement. On s'est assez peu servi de l'électromyogramme, on s'est pratiquement jamais servi de l'électrorétinogramme, on s'est un peu servi d'EEG, mais pas beaucoup. Donc, on peut pas dire qu'on a été vraiment des biologistes. Mais on a essayé, en tout cas, d'axer, et on a essayé aussi de faire le pont avec les neurosciences. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des élèves qui ont fait des thèses de sciences, des thèses donc de neurosciences. Donc, c'était ça, faire le pont. Aujourd'hui, bon, c'est un fait qu'il reste des équipes assez nombreuses qui travaillent en psychologie du développement en France. C'est assez rare qu'elles aient une individualité totale. C'est pas Genève. D'ailleurs, même Genève, maintenant, n'est plus Genève, j'allais dire. Donc, elles sont en général des équipes dans des laboratoires qui, quelquefois, portent un autre nom, où le terme de développement n'est même pas apparent. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est vrai, si vous voulez, que c'est pas un secteur isolé et complètement à part des autres dans la psychologie. Et ça ne voulait pas l'être au départ, puisque je vous dis encore une fois, ça voulait être une part de la psychologie générale. Ce qui explique d'ailleurs que quand j'étais au laboratoire de psychologie expérimentale et que je faisais des études de développement, je ne me sentais pas à ma place. Mais ce sont les coupures institutionnelles qu'on nous a imposées qui ont fait les choses. Quand, par exemple, le CNRS a décidé qu'après tout, les gens du laboratoire de psychologie expérimentale et comparée devaient se couper des gens du développement. Alors, une partie de ces gens est passée au laboratoire de psychologie de l'enfant de l'ex-laboratoire Oléron, au laboratoire de Janine Baudichon, comme Roger Lécuyer, et d'autres, comme, Michel Caille, ont formé leur propre laboratoire et ont récupéré d'ailleurs des gens de chez nous aussi. Donc il y a eu des passages et des transformations, mais qui ont été demandés. Ça s'est rarement fait par consentement mutuel, j'allais dire, et sous des impulsions. La neuropsychologie, attention, elle est quand même de création ancienne.
Oui.
Mais elle a aussi eu des avatars nombreux. Et elle a pris énormément d'importance grâce à une avancée technologique. Elle a pris d'autant plus d'importance qu'elle a à sa disposition non seulement l'EMG, elle a l'IRM, elle a les PET scans, elle a tout un arsenal de techniques qui font que ça arme la neuropsychologie. Et ça, c'est effectivement important. Oui. L'imagerie est un outil. C'est pas l'imagerie qui peut nous donner la solution des problèmes. C'est les questions qu'on peut poser à l'imagerie et en choisissant les techniques de l'imagerie convenables qui peuvent aider à résoudre les questions. C'est pas la même chose. Le succès de la neuropsychologie ne cesse de s'affirmer. Et à mon avis, il ne fera que croître et embellir.